Allez, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour la nouvelle saison. On a eu pas mal de périodes avec des empêchements, avec les fêtes, etc. Donc, Bezrat Hashem, on se retrouve tous les mercredis à partir de 20h. Tous les lundis à partir de 20h, si Dieu veut. Comme d'habitude, donc déjà avoir une première partie sur une réflexion sur la paracha du Shabbat qui vient de passer. Et ensuite, revenir sur la Gemara qu'on avait entamée. Si vous vous souvenez, en fin de saison dernière. Mais on prendra le temps, ne vous inquiétez pas, de rafraîchir tout ça. Tout d'abord, bien évidemment, le sujet, en tout cas un des sujets essentiels de la paracha de la semaine, c'est ce qui est présenté dans la Torah au début et à la fin de la paracha. C'est-à-dire que volontairement, dans la façon dont les Chachamim ont découpé les parachiotes, ils ont voulu nous inclure dans la même paracha pour qu'on puisse avoir une même réflexion sur ce qui est raconté au tout début et ce qui est raconté tout à la fin. C'est-à-dire l'histoire de la génération et de la faute du déluge est terminée avec l'histoire de la tour de Babel. Il faut bien comprendre ici que si les Chachamim l'ont découpé de cette façon, c'est bien évidemment pour créer un lien entre les deux, pour en dégager les points communs ou les différences par rapport notamment à leurs fautes, à leurs intentions et par rapport aux conséquences de leurs fautes. Commençons tout d'abord par le classique à propos de la faute de la génération du déluge. Je reprends le verset tel qu'il est présenté dans la Torah. On nous dit, Omeret HaTorah, la Torah nous dit, Vatishachet ha'aretz lifnei ha'elokim, Vatimale ha'aretz ramas, traduction littérale pour l'instant, Vatishachet ha'aretz, que la terre s'est corrompue, le monde s'est corrompu, lifnei ha'elokim, devant Elokim, devant Hachem, Vatimale ha'aretz ramas, et la terre s'est remplie de violence, Hamas. Hamas, c'est la traduction de violence. Sur ce, Rashi rapporte un commentaire qui est extrêmement célèbre, qui est tiré de la Gemara de Sanhedrin, tout simplement de la Gemara, qui nous dit la chose suivante. Vatishachpu, quelle est l'implication concrète de la corruption de la terre? Quelle est la faute? Quelles sont les fautes? Et la Gemara nous dit, Vatishachet, Lachon, Erva, va avodazara. Ce qui est sous-entendu dans le terme de la terre s'est corrompue, vatishachet, c'est en réalité deux fautes. À chaque fois qu'on a la notion de ashrata, de corruption, c'est pour deux notions en particulier. C'est tout d'abord l'idolâtrie et la débauche. Donc quand on nous dit « Vatishachet ha'aretz » que la terre était corrompue, sur quel point elle était corrompue pour dire qu'elle est corrompue devant Hachem? Qu'est-ce qui nous éloigne d'Akadosh Baruch Hu? En réalité, il y a deux fautes. Il y a la débauche et l'idolâtrie. L'idolâtrie, on comprend. Je me détache d'Akadosh Baruch Hu par définition. C'est l'idolâtrie. La débauche, c'est exactement pareil. Je vous rappelle qu'aux yeux de la Torah, la débauche fait partie des piliers du comportement humain, qui sont insupportables aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu déteste la débauche, et on le voit en réalité avec le premier contrat qui est passé entre Dieu et l'humanité, avec Avraham, ce qui va transformer Avraham en Avraham, le père de la nation juive, c'est la Brit Mila. On travaille sur la sexualité. Et vous allez voir que ce fil-là, sur la sexualité, est un fil rouge qui va traverser toute l'histoire juive. Avraham, la Brit Mila, il devient Avraham à ce moment-là. Il peut donner naissance à Yitzhak, alors que jusqu'à présent, il ne pouvait pas donner la naissance à Yitzhak parce qu'il n'y avait pas la Brit Mila. Et on va voir que c'est ce qui va définir tous ceux du groupe d'Avraham. Que ça soit sa famille, que ça soit son groupe d'amis, de convertis, etc. Ce qui va définir l'alliance avec Avraham, c'est bien évidemment la Brit Mila. La Brit Mila, c'est bien évidemment aussi le travail sur la sexualité et la débauche. Donc, Avraham va se distinguer sur ce point-là. Avraham, Yitzhak, Yaakov, bien évidemment, les enfants de Yaakov. Le passage en Égypte, rappelez-vous, on a fait un cours sur ça une fois. Quand on est arrivé en Égypte, une fois que tous les chefs de tribu sont morts, la première chose qu'on a lâchée, c'est la Brit Mila. On a lâché la Brit Mila, pourquoi? Parce que, aux yeux des Égyptiens, c'est complètement fou de travailler sur la sexualité, de mettre de la spiritualité au niveau de la Brit Mila. C'est quelque chose qui est inconcevable pour les Égyptiens. Et donc, comme les Hébreux, à ce moment-là, voulaient s'intégrer certains diraient aujourd'hui, s'assimiler à la société égyptienne. Du coup, la première chose qu'ils enlèvent, c'est la Brit Mila. Les seuls qui maintiennent la Brit Mila, c'est les Lévis. Les Lévis, malgré toute la période d'esclavage, d'assimilation, de tout ce qu'on veut, les Lévis sont les seuls à ne pas toucher, à ne pas retirer la Brit Mila. Et donc, c'est pour ça que les Lévis, eux, auront le mérite d'être les Kohanim, de servir au Beth Amikdash, etc., parce qu'ils ont maintenu ce travail sur leur sexualité, pas le reste du peuple d'Israël. Et voyez que tout au long de notre histoire, à chaque fois que l'on veut assimiler le peuple d'Israël, la première chose que l'on fait dans les lois, dans les décrets, dans les interdictions, c'est quoi? C'est d'empêcher les Hébreux, les Juifs, de faire la Brit Mila. Parce que pour le concept des nations du monde, on laisse la sexualité comme elle vient. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de tabou, tout est permissif, etc. Le peuple d'Israël se définit par rapport à ça. Donc quand on nous dit qu'on s'est corrompu aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est donc deux fautes, et qui sont du coup maintenant tout à fait compréhensibles vis-à-vis du lien avec Hachem. Premièrement, c'est l'idolâtrie, par définition, et la débauche. Là où il y a de la débauche, il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Hachem nous dit, moi je ne reste pas avec des débauchés. D'accord? C'est quelque chose que je ne supporte pas, c'est à l'encontre de la Kedusha. Et je vous rappelle que c'est une des très rares fautes pour laquelle le terme de Tum'a est employé en nous disant que celui qui transgresse ces fautes de débauche-là, il devient tamé. Il devient lui-même tamé. Ce n'est pas juste que son geste est interdit, c'est qu'il fait rentrer en lui de l'impureté liée à la débauche. Donc, Rashi clair, Vatishachet, idolâtrie et débauche. Et pourtant, un brouchazal, Doramaboul, Béram, cependant, Afalpia Averotachamurot Alalou, malgré ces deux fautes-là qui sont, je vous rappelle, des fautes capitales, les deux, Doramaboul Nixar, Rak à la Gezel. Ce qui est surprenant, nous dit Rashi, et nos commentateurs de manière générale, nous disent que malgré ces deux fautes-là qui étaient extrêmement répandues et totalement graves aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, le décret d'extermination de l'humanité a été signé à cause du Gezel, à cause de la faute, du vol.
Ça touchait les hommes entre les hommes.
Hazak, exactement, et on va voir pourquoi. En fait, la question qu'on pose tout de suite, c'est la suivante. On sait qu'il y a trois fautes capitales pour lesquelles on doit se laisser tuer plutôt que de transgresser. Les trois fautes capitales sont le meurtre, l'idolâtrie et la débauche. Ok. Sur les... Pardon ?
Il n'y a pas quatre ?
Non, trois. À quelle vous pensez la quatrième ? Ça, c'est les trois fautes capitales. Attention, capital, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si quelqu'un me menace de mort, d'accord, en mettant un pistolet sur ma tempe, en disant « soit tu deviens idolâtre, soit je te tue », on doit se laisser tuer. Pareil pour la débauche, pour la relation incestueuse, pareil pour le meurtre. Tu tues quelqu'un ou je te tue. On se laisse tuer plutôt que de tuer quelqu'un. Ok ? Uniquement ces trois-là. Donc on est bien d'accord que là, dans l'état de l'humanité à ce moment-là, il y avait déjà les deux fautes capitales. Deux fautes capitales, l'idolâtrie et la débauche. Nos maîtres nous disent, ah non, mais tant qu'il n'y avait que ces deux fautes-là, ça pouvait tenir. Mais la xéra d'Akadosh Baruch Hu, le décret d'Akadosh Baruch Hu de signer la mort de l'humanité, c'est à cause du vol. Et là, nos commentateurs posent la question, disent, attends, mais le vol, c'est beaucoup moins grave que les deux premières fautes. C'est-à-dire, je ne comprends pas, si dans la balance, tu mets d'un côté l'idolâtrie et la débauche, et de l'autre côté, tu mets le vol. Le vol, ça, c'est nul, enfin, c'est, bien évidemment que c'est interdit, mais c'est rien, comme gravité, comme incidence. Pourquoi ce n'est rien? Parce que si tu voles, la Rava nous dire, il y a un moyen de réparer le vol. Tu rends l'objet que tu as volé, il y a des fois il faut donner en plus une somme supplémentaire, etc., fois 2, fois 4, fois 5, d'accord, mais ça se répare. C'est pas une faute capitale.
Mais ils faisaient en sorte de voler des petites...
D'accord. C'est pas une faute capitale, même si c'est complètement vicieux, c'est tordu. Ce n'est pas une faute capitale. Dis-moi, s'il y a un truc pour lequel il faut vraiment s'énerver, énerve-toi pour l'idolatrie, énerve-toi contre la débauche. Comme on l'a dit, la débauche aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il déteste ça. Mais le vol, sérieux, tu n'anéantis pas l'humanité à cause de la faute du vol. Et pourtant, c'est bien ce qu'il y a écrit. Le Xar, le Xardine, le décret d'anéantissement de l'humanité a été signé sur le vol, pas sur les deux autres fautes. Sous-entendu, s'il n'y avait eu que les deux premières fautes, Hachem, il aurait laissé couler. Et là, déjà, il faut qu'on trouve une réponse. Et il y a une très jolie réponse à cette question. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, on est encore avant le don de la Torah, bien évidemment. On est bien avant le don de la Torah. Vous allez me dire, et alors pourquoi on le précise ? Parce que je vous rappelle tout simplement un midrash que vous... Pardon ? Oui, d'accord, mais si tu dis ça, vous avez raison. Mais si on commence à dire ça, alors du coup, alors pour l'idolâtrie aussi, il n'y a pas d'interdit, parce qu'il n'y a pas de Torah, etc. D'accord, mais on sait que malgré tout, il y avait une implication et une obligation de comportement, bien qu'on n'ait pas... Il n'y avait pas encore les lieux de Noir. Pas encore, puisque Noir, il arrive après. D'accord. Donc, il n'y a pas encore tout ça. C'est vrai, légalement, il n'y a pas encore. Mais il n'empêche que Akadosh Baruch Hu, il attend de l'humanité un certain comportement. Il attend une reconnaissance, et donc pas d'idolâtrie. Et il attend qu'il y ait un comportement noble d'un être humain, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de débauche. Il attend ça, même s'il n'y a pas une loi. Oui, bien évidemment que ça c'est. Le problème, c'est quoi ? C'est que l'humanité ne veut plus l'entendre. Mais il le savait pertinemment. Pourquoi est-ce qu'il le savait ? Parce que je vous rappelle que la première génération, les premières générations, étaient extrêmement conscientes de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Volontairement, elles s'en sont détachées. Mais elles étaient parfaitement conscientes. Il n'y a que 10 générations depuis Adam Harishon. D'accord, et Adam Harishon, il a vécu longtemps. Donc je vous rappelle qu'il y a des générations qui marchent les unes sur les autres. Donc, Adam Harishon, il sait pertinemment que Dieu existe, et il a transmis à ses enfants, et les enfants à leurs enfants. Enfin, ils savent pertinemment qu'il y a un comportement à avoir et que Dieu existe et que c'est lui qui gère la terre. Ils ont voulu l'oublier, ils se sont détachés petit à petit. Mais il y a quand même quelque chose, qu'est-ce qu'on leur reproche ? Alors regardez, il y a un très joli midrash que vous connaissez tous, parce qu'on le raconte 50 fois ce midrash. Rappelez-vous, c'est dans la parasha de Bereshit. Un enseignement qui est hyper connu, notamment par le nom du Rav, Amar Rabbi Simon. Un enseignement au nom de Rabbi Simon. Qu'est-ce que dit Rabbi Simon ? Besha Sheba Kadosh Baruch Hu Livrot et Adam. Au moment où Kadosh Baruch Hu il a pris la décision de créer Adam Harishon, Naasu Malachei Hasharet Kitim Kitim. Les anges il a convoqué les anges du service et les anges se sont formés par groupe, Vachaburot Raburot et par équipe. Mehem omrim al yibare, ou mehem omrim yibare. Parmi les anges, il y en a certains qui disaient al yibare, il ne faut pas créer l'homme. Et d'autres qui disaient yibare, au contraire, il faut le créer. Les équipes, on les connaît. Tu as l'équipe du chesed, la générosité. Le chesed dit yibare, bien évidemment qu'il faut créer l'homme. Le chesed, il est prêt à créer l'homme. Pourquoi ? Chehu gomel chassadim, par définition. L'homme, il sait faire du bien. Il sait être généreux. C'est la grandeur de l'être humain. On ne peut pas lui retirer ça. L'homme sait faire du chesed. Ok ? Dès qu'il y a quelqu'un qui souffre autour de moi, ça me fait de la peine, je compatis, je partage sa souffrance. Quand il est heureux, eh ben, je suis aussi heureux. Je sais faire du chesed. Quelqu'un vient frapper à ma porte en plein milieu de la nuit pour demander quelque chose. Je vais essayer de l'aider. D'accord ? C'est le chesed. L'ange du chesed nous dit, Yibare, vas-y à Kadosh Baruch Hu, l'homme sait faire du chesed. D'un autre côté, on a l'ange du Emet. Le Hémet lui dit « Ali Baré », alors c'est hors de question. Il ne faut pas créer l'homme. Parce que l'homme n'est que mensonge. D'accord ? L'homme n'est que mensonge depuis sa naissance. D'accord ? Il est tout petit, tu lui dis « C'est toi qui as fait ça ?» Il dit « Non, c'est pas moi qui a fait ça. » D'accord ? Mais il n'y a que lui dans la pièce, c'est forcément lui. D'accord ? L'homme n'est que mensonge, par essence. Donc l'ange du Hémet dit « Ali Baré », il ne faut pas le créer. Chez Koulosh Karim, il n'est que mensonge. Le troisième ange, c'est le Tzedek, la justice. Lui dit « Yibare », oui, bien sûr, il faut créer l'homme. Chez Ouosé Tzedakot, parce que l'homme sait imposer des lois. Papa décide un homme juif. L'homme, l'humanité, la société, sait s'organiser autour de lois. Toutes les nations du monde, même celles qui ne sont pas juives, ont des tribunaux, des codes civils, des codes de loi, etc. On sait faire ça. On sait parce qu'on sait vivre en société et on sait que c'est compliqué de vivre en société et qu'il faut des lois pour les respecter. Donc, l'ange du Tzedek dit oui, il faut le créer. Et le dernier, c'est Shalom, l'ange de la paix, Omer à Alibaré. Lui, il dit, c'est hors de question, il ne faut pas créer l'homme. Parce que l'homme, c'est que des guerres, c'est que des disputes. Tu mets deux gars l'un à côté de l'autre, ils se disputent en un quart d'heure. D'accord, ils ne sont pas d'accord, pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as dit ça, etc. On n'arrête pas de se disputer. Bien. Fin de l'histoire. Que fait Akadosh Baruch Hu ? Il prend l'ange du Emet, l'ange de la vérité, et il le jette à terre. Et un jour, dit la fin de ce Midrash, et un jour, mais Eretz Titzmach, que le Emet va germer de la terre. De quoi est-ce qu'il s'agit ? C'est quoi cet ange du Emet ? L'ange du Emet, en réalité, c'est la Torah. La Torah, c'est le Emet, la voix de Dieu, par essence. Akadosh Baruch Hu dit, écoute, il dit aux anges, vous avez raison, vous avez raison, l'homme n'est pas capable ni de vérité, ni de paix. Il n'est que mensonge et il n'est que guerre. Vous avez raison, il ne tiendra pas. Mais, dit Akadosh Baruch Hu, puisque de toute façon j'ai l'intention de le créer, ça c'est un fait, je vais l'aider. Comment je vais faire pour aider cet homme-là ? Je vais prendre la Torah, ma Torah, je vais la jeter à terre. Je vais leur offrir la Torah, je vais leur offrir le Emet. Grâce au Emet de la Torah, l'homme va pouvoir essayer de faire attention à son comportement et de se coller au Emet. Donc moi, Hachem, je vais aider l'être humain. Et toi, le Emet qui représente la Torah, je te mets au sol, au niveau des êtres humains. Un jour viendra, je donnerai la Torah à l'humanité, et toi, Emet, mais Eretz Titzmach, tu vas germer de la terre, c'est-à-dire que tu vas être là pour accompagner les hommes et nous aider à nous comporter convenablement et être dans le Emet. Mais quand est-ce qu'on aura ce Emet qui va germer de la terre ? Il va germer au don de la Torah. Avec le don de la Torah, il y a le Emet qui va apparaître. Mais tant qu'il n'y a pas de Emet, il y a toujours un combat avec deux anges d'un côté et deux anges de l'autre. Mais les seuls anges qui étaient d'accord de nous créer, c'est lesquels ? C'est celui du Chesed et celui du Tzedek, celui de la justice et celui de la générosité. Et nos maîtres nous disent, tant qu'il n'y a pas de vol dans l'humanité, ça tient. Pourquoi ça tient ? Parce que tant qu'il n'y a pas de vol, les deux anges qui vous ont défendu pour vous créer, eh bien, ils tiennent toujours. Ils sont là devant Akadosh Baruch Hu en disant, hey, « Eh, nous, on t'avait dit, non ? Que l'homme, il est capable de faire du chesed et du tzedek. Certes, ils sont débauchés. Certes, ils font de l'idolâtrie. Mais nous, on n'a pas misé sur ça. Nous, on a misé sur le comportement l'un à l'égard de son prochain, qu'il n'y a pas de vol et qu'il y a de la justice. On a misé sur ça et tu nous as donné ton feu vert. Donc, du coup, tant qu'ils tiennent sur ça, il n'y a pas de quoi les anéantir. Même s'il y a de la débauche et de la perversion et de l'idolâtrie. Mais à partir du moment, et c'est ça que veut nous dire Rashi, à partir du moment où il y a du gazelle, quand il y a du vol qui commence à se répandre dans la société et que ça devient le système de fonctionnement de la société et qu'il n'y a plus de tribunaux pour rendre les objets chacun à celui qui a été volé, etc., parce que c'est devenu systémique et que tout le monde vole, alors là, Akadosh Baruch Hu, il se tourne vers les deux anges qui ont validé notre création en leur disant « Je suis désolé ». L'humanité ne tient plus. Vous deux, vous n'êtes plus capables de tenir l'humanité. Et d'accord, et votre parole de « oui, on va le créer », ça ne tient plus la route, puisqu'ils ne sont plus capables de faire ni du chesed, ni du tzedek.
Et c'est ce qui a fait la différence avec le temps de
l'homme. Radak, deux minutes. Et donc, puisqu'il n'y a plus ces deux anges défenseurs, il n'y a plus personne pour prendre notre défense. Et il n'y a pas encore de Torah, puisque le Emet n'est pas encore apparu. Donc du coup, il n'y a rien pour nous défendre. Donc Akadosh Baruch Hu nous dit « le Gezel, c'est ça qui va déclencher la fin de l'humanité. La création n'est plus justifiée lorsqu'il y a du Gezel et lorsqu'il y a au sein de l'humanité, effectivement, qu'il n'y a plus de justice. Et c'est exactement ce qui se passait à l'époque. Il n'y avait plus ni de Tzedek, ni de Chesed.
Et quel est le lien avec le meurtre alors ? Parce qu'on a parlé
avec quoi ?
Avec le meurtre. Parce qu'on a parlé des trois piliers.
J'ai parlé des trois piliers, mais ici, tu as bien remarqué que le meurtre n'est pas du tout évoqué.
Oui, mais c'est
il n'y a pas de meurtre, ok. Il n'y a pas de meurtre.
Alors pourquoi on a parlé des trois piliers ?
Juste pour te dire, pour vous redire, pour vous rappeler que l'idolâtrie et la débauche fait partie des trois fautes capitales. Il n'y avait pas la troisième. Certes, il n'y avait pas la troisième. Ok, c'est vrai, il n'y avait pas la troisième. Mais il y avait quand même deux. Et sur deux, sur trois, il y avait largement de quoi détruire l'humanité. En réalité, si la Torah avait déjà été donnée, peut-être que oui. Mais tant que la Torah n'était pas donnée, la seule chose qui justifie la création de l'homme, c'est le tzedek et le chesed. Donc tant qu'il y a du tzedek et du chesed, l'humanité peut tenir, même si tout à côté est pourri. Mais dès qu'il y a du vol, même si le vol c'est une petite faute, certes c'est une petite faute, mais c'est ça qui nous a permis d'être créés. C'est sur ça qu'on tient à ce moment-là. Donc du coup, si on retire et qu'il y a du vol, c'est foutu. Akadosh Baruch Hu, il envoie le déluge sur ça. Le deuxième point qui est posé par nos Chachamim, il y a un grand principe qui nous dit la chose suivante. Normalement, quand Akadosh Baruch Hu envoie une punition, il n'envoie jamais directement la punition sur le corps de l'être humain. C'est un grand principe. Je vous donne un exemple, le plus basique. La faute de la punition de la tsaraat, la lèpre. Chazak, vous savez que d'après la Torah, dans l'ordre de présentation de la Torah, si quelqu'un fait du lashon hara et pas mal d'autres fautes, Dieu, pour le réveiller, va lui envoyer la lèpre, d'après la Torah, sur sa peau. Le premier paragraphe, c'est sur la peau. Deuxième paragraphe, sur les vêtements. Troisième paragraphe, sur les murs de sa maison. À tel point qu'on peut en arriver à détruire les murs de la maison si jamais il continue à faire ses fautes, etc. Bien. Dans l'ordre de présentation de la Torah, c'est l'ordre que je viens de vous dire. La peau, les vêtements, les murs. Pourtant, nos Chachamim dans la Gemara vont nous dire, bien que ça soit écrit dans cet ordre-là dans la Torah, dans les faits, Akadosh Baruch Hu inverse l'ordre. Et que quand quelqu'un fait du Lashon Hara, il ne va pas tout de suite être touché par sa peau, mais Akadosh Baruch Hu va déjà envoyer une lèpre qui va se répandre sur les murs de sa maison. Pourquoi ? C'est un avertissement. D'accord ? Un feu clignotant qui se met à s'allumer. Attention, il y a un problème. Il va falloir que tu réfléchisses à ton comportement. Il y a un souci. Donc il attaque d'abord les murs. Ensuite, si tu continues et que tu insistes dans ton comportement, Akadosh Baruch Hu enverra la plaie sur tes vêtements. Donc ça se rapproche de toi. Si tu continues malgré tout, ça sera toi, ta peau, ta chair, qui sera directement touchée. Et nos Chachamim nous disent, mais pourquoi alors du coup c'est écrit dans un sens dans la Torah, mais c'est dans la réalité un autre sens? Et les Chachamim ont donné cette réponse qui est magnifique. Akadosh Baruch Hu est plein de miséricorde. Et il ne veut pas te faire mal à toi directement. Il préfère que tu te réveilles, il n'a pas envie de frapper les fauteurs. Il a envie que le fauteur se réveille et qu'il fasse teshuva. Donc du coup, Hachem, dans sa miséricorde, il envoie d'abord des signaux qui ne te touchent pas sur ton corps, mais qui vont d'abord attaquer ta maison pour te réveiller. Si tu ne te réveilles toujours pas, alors tes vêtements. Et si tu ne te réveilles toujours pas, je suis désolé, c'est ta peau. Donc Akadosh Baruch Hu, le principe, il n'attaque jamais les individus en premier. Il envoie toujours d'abord des signes annonciateurs d'une punition plus grave. Parce que c'est ce qu'ils souhaitent, qu'on fasse teshuva. Et donc du coup, la question ici, c'est, alors attends, mais ici dans la destruction du déluge, il n'y a pas eu les moments où Hachem il a envoyé des signaux annonciateurs de la destruction. Il aurait dû le faire, il aurait dû d'abord toucher les biens de la personne avant de toucher les personnes. C'est ça le principe. D'abord, il touche les biens avant la personne, les murs, les vêtements et ensuite la personne. Donc c'est toujours les biens avant la personne, mais ce n'est pas directement la personne. Or, dans l'histoire du déluge, il s'en prend à l'humanité directement.
Il n'y a pas de pluie un petit peu avant ?
Non, mais la pluie, elle est là pour toucher directement les hommes, elle n'a pas touché les biens. Ouais. Il n'y a pas eu quelque chose où on a perdu nos biens. Pourquoi je parle de ça ? Parce que quand on touche nos biens, pour un être humain, ah, tu m'as tué, tu as touché mon argent, je suis mort. D'accord ? Donc du coup, quand tu touches mes biens, je réfléchis. Il y a un truc qui cloche. D'accord ? Donc du coup, ça me donne à réfléchir. Mais dans l'histoire du déluge, Akadosh Baruch Hu ne sait pas attaquer au bien des personnes avant de toucher les personnes. Il a directement touché les personnes, il a envoyé son décret, d'accord, de destruction. Oui, mais les 120 ans, alors ça c'est incroyable, les 120 ans. Donc vous savez que les 120 ans en question, c'était le temps de la construction de l'arche. Pourtant, nos commentateurs nous disent, mais il ne faut pas 120 ans pour construire une arche, même si elle est énorme, il ne faut pas 120 ans. Et on nous répond, mais oui, parce qu'en fait, c'était le temps nécessaire pour planter les arbres qui allaient être utilisés pour l'arche. Alors, à la question de savoir, mais pourquoi il a besoin de planter les arbres ? Il n'a qu'à récupérer les arbres qui sont déjà plantés. D'accord, pourquoi prendre ce temps-là ? Réponse, c'est ce que tu dis, cher, c'est que parce que quand les gens ont vu Noah commencer à planter des arbres, chose que personne ne faisait à l'époque, planter des arbres, ils ont été lui poser la question. Pourquoi tu plantes des arbres ? Qu'est-ce qui se passe ? D'accord, en plein milieu d'une forêt, pourquoi tu plantes des arbres ? D'accord, et ils commencent à répondre. Dieu va envoyer le déluge, etc. Mais ce n'est que par la parole. Que par la parole, il n'y a pas eu... Y a... savez, tant que ça ne nous touche pas, tu peux parler pendant des heures. Mais quand je vois que ça commence à toucher mes murs, ah bah là, c'est différent. Toi, tu m'as parlé, tu m'as fait des cours entiers sur le Lashon Hara. Ça m'est passé au-dessus de la tête. Mais quand j'ai continué à faire du Lashon Hara et que mes murs sont en train de se détruire, ah, ok, là, ça commence à être plus sérieux. Quand mes vêtements, ils commencent à s'abîmer. Et ma peau. Donc, tu peux parler pendant des heures. Noir, il a parlé, bien évidemment. On dit que Noir, il n'a jamais parlé. En fait, il a parlé. Mais le reproche qu'on fait à Noir, c'est qu'il n'a pas été actif dans sa façon de parler aux gens. Il n'a fait que répondre aux questions qu'on lui posait. Donc, quand on venait lui poser la question « Pourquoi tu construis une arche ? Pourquoi ?» etc. Il disait « Il va y avoir un déluge, etc. Faites attention, faites teshuva. » Ça n'a pas eu d'effet, premièrement, puisqu'on voit que personne ne s'est allié à Noir, personne. Donc, ça n'a pas eu d'effet, et c'est resté des paroles. C'est resté des paroles. Donc, Akadosh Baruch Hu, lui, quand il envoie son décret, sa punition, il ne s'est pas attaqué au bien, alors que normalement, d'après le principe développé ici, il aurait dû d'abord s'attaquer au bien, et là, ça aurait réveillé la génération. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Et la réponse, qui colle tout à fait avec ce qu'on a dit au début, la réponse c'est quoi ? C'est que quand tu parles à une génération où tout le monde vole, où on ne donne aucune importance au bien de la personne, puisque quand je perds quelque chose, je le pique à côté. Je m'en fous complètement de perdre quelque chose. Le système, c'est qu'on se vole tous les uns les autres. Donc quelqu'un qui va perdre quelque chose parce que ça va s'abîmer, parce que Dieu va lui envoyer un signal, attention, tu perds tes biens, réveille-toi. Il ne va pas réfléchir en se disant, oh là là, c'est grave, je suis en train de perdre mes biens, Dieu m'envoie un signal. Il va se dire, oh ben c'est pas grave, je sais faire quand je perds des biens, je sais comment réagir. J'en pique d'autres. Donc du coup, à ces gens-là, Dieu ne pouvait pas suivre le principe général de dire que d'abord je m'attaque au bien avant de m'attaquer à la personne. Parce que ça n'aurait eu aucun effet dans leur esprit. Parce que s'ils perdaient des biens, ils auraient été tout simplement les piquer ailleurs. Donc, quand c'est devenu dans un système où le vol était tellement répandu que le droit de propriété, la conscience de la propriété n'existait absolument plus, du coup, Akadosh Baruch Hu n'avait rien à gagner, entre guillemets, en tout cas aucun signal à envoyer, en touchant les biens des personnes.
Pareil pour Sodome et Gomorrhe, il a pas touché leurs biens, tout de suite les a attaqués.
Exact, il faudrait réfléchir là-bas, t'as raison, il faudrait réfléchir là-bas, pourquoi effectivement l'ordre n'est pas respecté.
Alors qu'en Mitzrayim, oui,
en Mitzrayim, il y a déjà les biens, ouais. Exactement, donc il faudrait réfléchir là-bas, à Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'ils...
Sodome, il y avait la cruauté en plus.
C'est ça, donc peut-être que c'est... Exact, ceux qui faisaient du chesed. Donc du coup, peut-être que là aussi, on était sur une gamme de ce genre-là. Et donc une fois qu'on a dit tout ça, qui explique pourquoi le déluge a été envoyé dans ces conditions-là, directement, sans toucher les biens d'abord, etc., du coup apparaît immédiatement la deuxième question sur la tour de Babel. La volonté de la tour de Babel, dans la Gemara de Sanhedrin, c'est que les hommes voulaient monter le plus haut possible pour se mesurer à Dieu. C'était ça l'objectif, et c'est rapporté par Rachid d'ailleurs sur la paracha. Rachid nous dit, ils sont montés là-haut avec des hachettes et des marteaux, d'accord, pour se battre contre Dieu. Ils voulaient en découdre. Alors bien évidemment, hein, ils savent bien qu'ils ne peuvent pas battre Dieu, mais l'idée c'est quoi ? C'est de se détacher et de chasser la manifestation de Dieu au sein de la société. Ils se disent la chose suivante, quand Dieu est parmi nous, il se permet de nous anéantir, il se permet de faire ce qu'il veut. On n'a plus envie de ça. On a envie d'une société dans laquelle il n'y a plus de Dieu. Une société extrêmement moderne. Je vous rappelle le Or HaChaim sur ce passage-là qui est exceptionnel. Le Or HaChaim nous dit que leur volonté, c'était quoi ? C'était de construire une ville immense et que la tour, c'était leur symbole. Comme leur drapeau. Pour que quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu puisses voir la tour de très loin et de développer un sentiment d'appartenance avec la ville en question. C'est ça la faute de la tour de Babel d'après le Or HaChaim. Alors on peut se dire, mais alors attends, mais si leur volonté c'est de combattre Dieu, de chasser Dieu de la surface de la terre, etc. D'accord, alors ça devrait être grave. La punition devrait être plus grave, ils n'ont pas de punition, ces gens-là. Il n'y a rien comme punition. C'est quoi leur punition? Ils changent leur langue. Ils les éparpillent sur la surface de la terre. C'est pas une punition, ça. Enfin, ça va, c'est léger, comparé au déluge. D'accord? Alors, c'est vrai, Dieu, il avait promis de plus envoyer de déluge. OK. Mais il n'avait pas promis de plus anéantir l'humanité. Ça, il n'avait pas promis.
Dans son entièreté.
Chazak. C'est dans son entièreté et c'est avec de l'eau. Mais d'une autre façon, il aurait pu trouver à Kadosh Baruch Hu une façon de punir ces gens-là de manière un peu plus sérieuse. Et en fait, et c'est ce qu'on disait au tout début, c'est que malgré leur défaut de vouloir chasser Dieu de la société, etc., etc., ils avaient une qualité, c'est qu'ils étaient unis. Safa echat udvarim achadim. C'est écrit à plusieurs reprises dans le texte, je crois au moins deux fois. Il est écrit, ou même trois peut-être, il est écrit qu'ils avaient tous une même langue et un seul et même projet. Lorsque dans une société, il y a au moins de l'unité à l'intérieur de la société, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à être plein de miséricorde. Même si ce sont des gens qui ne sont pas d'accord, sont pas exceptionnels, etc., malgré tout, il est prêt à les laisser vivants, juste à aller à l'encontre de ce qu'ils ont voulu. Ils ont voulu avoir une ville immense comme ça, où tout le monde était réuni au même endroit. Ok, je vais casser ça, je vais les éparpiller, ils vont tous partir partout, ailleurs, d'accord, ils vont chacun avoir un langage différent, mais il n'anéantit pas cette génération-là. Pourquoi? Parce que quand il y a l'unité au sein de la société, même si c'est une unité qui est que apparente, hein, bien évidemment, le commentateur nous dit que c'était que apparent, qu'en réalité chacun avait des idées différentes, mais apparemment, il y avait de l'unité, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est suffisant pour ne pas anéantir l'humanité. Et c'est ça la grande différence qu'il y a entre la génération du début de la paracha et la génération de la fin de la paracha. Combien il y a de temps entre les deux? Vous avez une réponse à cette question? Entre le déluge et la palaga. De quoi, combien tu dis? Entre la fin du déluge et la tour de Babel. Alors moi j'ai vu un commentaire, j'ai vu plusieurs réponses, mais le commentaire qui me semble le plus construit au niveau des preuves, c'est de dire qu'il y a 34 ans. C'est pas énorme, hein? C'est pas énorme. 34 ans.
C'est vite multiplié. Comment en 34 ans, on peut avoir plusieurs générations? A priori, ils n'étaient que 5, 6.
Ouais.
Parce qu'il y avait leur famille aussi.
Il y avait leur famille. Ouais, je sais pas. T'as raison, la question est bonne. La question est bonne, je prends. Mais c'est pour ça que je vous dis, j'ai vu plusieurs réponses sur ce sujet-là. En tout cas, celle que j'ai vue prouver avec des par rapport, vous savez, il y a un livre qui s'appelle Seder Olam, etc., d'accord, où il y a toutes les générations, d'accord, qui montrerait qu'il y aurait 34 ans, d'accord, mais bon, je garde ça juste en repère, mais c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre.
9 mois, la période de...
Voilà, c'est ça, on sait pas exactement comment ça fonctionnait.
Chazak.
Donc voilà, s'ils ont eu plein d'enfants d'un coup, je ne sais pas. Est-ce que c'était encore comme avant la faute d'Adam Harishon, où je vous rappelle, à l'époque d'Adam Harishon, en fait, il n'y avait pas de temps de gestation de grossesse. D'accord, alors on dit qu'après, il y a eu, mais on ne sait pas exactement comment ça fonctionnait. Donc, bon, tout ce qui est lié aux âges, aux années de cette époque-là, en fait, on n'a pas beaucoup de compréhension. Exactement. D'accord, donc c'est un peu compliqué sur ça. Donc, en tout cas, c'est dans la même paracha, justement pour mettre en relief cette différence avec d'un côté l'histoire du déluge et de l'autre côté l'histoire de la tour de Babel. Deux réflexions et deux ambiances différentes et des punitions et des conséquences différentes à leur comportement. Ok ? Chazak.